Bien, bonsoir. Nous allons continuer donc avec le livre des Actes. Pour ce troisième cours, nous sommes toujours dans les Actes qui, je le rappelle, est un document de première main pour faire l'histoire de l'Église, de la toute première Église. Nous étions parvenus au chapitre 5, à la fin du chapitre 5, donc l'arrestation des apôtres. Leur libération par l'intervention particulière donc d'un envoyé de Dieu nommé ange du Seigneur, et ensuite la comparution devant le grand Sanhédrin avec le discours de Pierre, donc je vous rappelle, qui parlait de « il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Et il développe, donc il témoigne de la résurrection, donc c'est un discours kérigmatique hein, devant le grand Sanhédrin. Il dit que lui et les apôtres ne peuvent se taire, ne peuvent taire ce message, ne peuvent taire la mort et la résurrection de celui dont ils ont été les témoins oculaires. Et tout cela se termine également par le témoignage devant le Sanhédrin du pharisien nommé Gamaliel le sage, qui dit « Eh bien, laissez partir ces hommes, si leur œuvre est des hommes, elle périra, si elle est de Dieu, vous ne pourrez rien contre elle, et à ce moment-là, vous aurez l'inconvénient de vous opposer à Dieu. » Et le récit, donc, à la fin du chapitre, se termine par les paroles suivantes. Les apôtres quittèrent donc le Sanhédrin, tout heureux d'avoir été trouvés dignes de subir des outrages pour le nom. Le nom qui est question, c'est celui de Jésus-Christ, bien sûr. Chaque jour au temple comme à domicile, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Messie. Alors, aujourd'hui, nous allons donc progresser dans le récit avec le chapitre 6. Nous allons aller du chapitre 6 au chapitre 15 inclus. Chapitre 6 qui ouvre une nouvelle période de l'histoire de l'Église de Jérusalem, comme nous allons le voir. Donc, nous avons vu que cette comparution devant le grand Sanhédrin aurait pu entraîner la mort des apôtres, car les chefs des Juifs enrageaient en entendant le témoignage des apôtres. Mais ils ont été libérés suite à l'intervention de Gamaliel, avec l'interdiction formelle de ne plus parler au nom de Jésus. Et bien sûr, il n'en sera rien. Pourquoi ? Parce qu'ils sont témoins oculaires du Christ, comme je viens de le dire. Ils sont habités par la puissance de l'Esprit-Saint depuis la Pentecôte. Hein. On a remarqué d'ailleurs que dès la réception de l'Esprit-Saint à la Pentecôte, les apôtres, investis de la puissance du Saint-Esprit, annonce sans peur la mort et la résurrection du Christ, donc annonce ce qui est au cœur même de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et donc nous savons que, quittant libre le Sanhédrin, ils prêchent au temple et dans les maisons. Ils enseignent, ils proclament la bonne nouvelle du Christ. La parole qu'on tente d'étouffer, mais qui retentit plus fort que jamais. Donc de là vont se produire un certain nombre d'événements qui vont conduire à la naissance d'églises hors de la Judée, hein, de cette section qui va du chapitre 6 au chapitre 15. nous assistons à la naissance d'Église en dehors de Jérusalem. Le fruit de cette prédication ardente, c'est le nombre des disciples qui augmente. Et Saint Luc insiste là-dessus en soulignant que c'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Hein. On avait vu la dernière fois que le livre des actes des apôtres était vraiment le livre des actes du Saint-Esprit par l'intermédiaire des apôtres. Donc, les deux premiers chapitres qui nous concernent aujourd'hui, le chapitre 6 et le chapitre 7, eh bien, ils occupent une place que l'on peut qualifier de charnière. Avec l'institution des sept, l'arrestation d'Étienne, le témoignage d'Étienne et sa lapidation. Sa lapidation, nous dit le texte, qui se fait en présence de Saül, qui deviendra l'apôtre Paul. Alors, ce qui est important, c'est que ces événements vont, on peut dire, l'arrestation et la mise à mort d'Étienne, premier martyr Étienne, l'archidiacre et premier martyr Étienne, comme nous l'appelons, cet événement va provoquer la persécution de l'Église de Jérusalem et elle va entraîner la dispersion de bon nombre de ses fils et de ce fait, bien l'annonce de l'Évangile dans une nouvelle contrée hors de la Judée. Autrement dit, le Seigneur a l'art de faire naître un bien du mal, parce que, évidemment, la mise à mort d'Étienne est un mal, mais le sang du martyr d'Étienne va engendrer toute une semence de chrétiens. Alors d'abord, voyons l'institution des sept, l'église de Jérusalem. Nous le savons, à ce moment-là, formait déjà une communauté considérable en nombre. Et, nous dit le texte, les apôtres ne pouvaient suffire au service des tables. Alors de quoi s'agit-il quand on parle du service des tables ? Ce peut être deux choses. Ce peut être donc l'idée du service des pauvres, de la répartition des biens aux pauvres. L'Église de Jérusalem était très active de ce point de vue-là. Et ce peut être également le service de l'Eucharistie qui suivait et l'agape, hein, puisque à ce moment-là, l'Eucharistie n'était pas encore séparé de l'agape. Ce peut être donc ces deux choses. Et de plus, nous apprenons qu'ils étaient en quelque sorte formés deux parties, celui des hellénistes et celui des hébreux. Et le premier verset du chapitre 6 nous dit que les hellénistes se mirent à murmurer contre les hébreux. Quand on sait l'importance de ce verbe « murmurer » dans la Bible, on voit bien qu'il y avait là une division entre ces hellénistes et ces hébreux, sans qu'il faille pour autant la forcer outre mesure. Alors nous savons que ces hellénistes, eh bien ça désigne dans l'église de Jérusalem des juifs de langue grecque, donc qui résident à Jérusalem, hein, mais qui sont issus pour l'essentiel de la diaspora juive qui est très nombreuse dans les grandes cités de l'Empire tout autour de la Méditerranée. Et donc les hellénistes se plaignent de ce que leurs veuves sont négligées par les Hébreux dans le service quotidien. Alors, qu'est-ce que font les apôtres ? Eh bien, ils convoquent les fidèles, ils agissent toujours ensemble, car ils forment une seule autorité, et ils ne veulent pas prendre de décision sans l'assentiment de l'Église entière. Ça, c'est important, il faut s'en souvenir, parce que ils agiront toujours de la sorte. Et devant l'Église assemblée, eh bien, ils disent la chose suivante, « Il ne sied pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, sept hommes de bonne réputation, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les préposerons à cet office. Quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Alors, le texte des Actes nous dit que l'assemblée des fidèles adhère à cette proposition des apôtres, et donc on choisit cet homme, Étienne, Stéphanos, donc, qui est un helléniste, mais comme les autres le sont également, Étienne, nous dit le texte, est un homme plein de foi et de l'Esprit Saint. On choisit également Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, le prosélyte d'Antioche. Et, continue le texte, on les présenta aux apôtres qui, en priant, leur imposèrent les mains. On notera donc deux choses, que l'élection fut faite par l'Église entière, que l'imposition des mains sanctifiée par la prière fut accomplie par le collège apostolique, duquel bien émane toute l'autorité dans l'Église. Autorité donnée par le Christ, qui est lui-même la tête de l'Église. Donc ceux qui ont reçu la chirotonie, hein, chirotonia, ça signifie imposition des mains, eh bien, on va les appeler serviteurs, diakonos. D'où le nom que nous donnons traditionnellement à Étienne, l'archidiacre et premier martyr, quand nous le nommons dans les textes liturgiques. Alors, nous disent les actes, l'institution des sept permet aux apôtres de ne pas s'éloigner de leur mission essentielle, donc qui est l'assiduité à la prière, et donc c'est la prière liturgique dont il s'agit, l'enseignement de la parole et la proclamation du kérigme. Ça, c'est tout à fait important, puisque c'est la mission première des apôtres, proclamer le kérigme. Et aussitôt, on voit que, après leur élection par l'Église, après l'imposition des mains qu'ils reçoivent, eh bien, les sept vont annoncer aussi la bonne nouvelle. Alors, on ne parle pas de tous. Hein. On va, dans un premier temps, parler surtout d'Étienne et de Philippe. Hein. On nous dit à propos d'Étienne, rempli de grâce et de puissance, qu'il opérait des grands prodiges et signes parmi le peuple. Et la puissance dont il est question ici, il ne la tient pas de lui-même, bien sûr, il la tient du Saint-Esprit. Comme nous verrons au chapitre 8, donc un peu plus loin, Philippe baptisait l'eunuque éthiopien, et lequel Philippe annoncera aussi la bonne nouvelle de l'Évangile jusqu'à Césarée maritime où il se rendait. Y a une remarque à faire là, parce que ça va être récurrent dans le texte. On voit que Étienne rempli de grâce et de puissance, opère de grands prodiges et signes parmi le peuple. C'est une manière pour le Saint-Esprit de manifester à travers lui la puissance de Dieu. Bien sûr, l'accomplissement des signes, de ces signes en eux-mêmes, n'est pas forcément nécessaire. Mais eu égard à la faiblesse humaine, ils sont donnés pour susciter la foi. Normalement, la foi qui naît de l'écoute de la parole suffit, mais néanmoins, il plaît au Saint-Esprit de manifester sa puissance par l'intermédiaire d'Étienne, d'accomplir des signes et de susciter la foi parmi les gens du peuple. Étienne, Philippe et Nicolas, le prosélyte d'Antioche, sont ceux dont les actes rendent compte de leur apostolat pour les deux premiers, et le troisième est nommé beaucoup plus tard dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 2, verset 6. Et saint Irénée de Lyon, dans le Contre les hérésies, affirme que Nicolas serait à l'origine d'une secte gnostique qu'on a appelée les Nicolaïtes. Donc il aurait fini, on n'est pas absolument sûr de ça, mais il aurait fini en dehors de l'Église. Donc Étienne est arrêté. Selon le procédé usuel, il est dénoncé, parce que ce qu'il accomplit, eh bien, attise la haine et la jalousie. Et il nous est dit que les gens de la synagogue dite des affranchis, avec des Cyrénéens et des Alexandrins, des gens de Cilicie et d'Asie, entrèrent en discussion avec Étienne. Et comme ils étaient incapables de s'opposer à la chaleur et à l'esprit qui marquait ses paroles, ils subornèrent des gens pour dire « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Juste, je signale, quand on parle de la synagogue des affranchis, donc c'est la synagogue de juifs qui avaient été réduits en esclavage et qui ont été libérés. Donc Étienne, sur la base de ces dénonciations, est arrêté et il est sommé de s'expliquer, puisqu'il y a des accusations portées contre lui. Bien sûr, tout cela est cousu de fil blanc dès le départ. On va chercher à le faire périr, mais on y met quand même certaines formes au minimum, bien que le jugement d'Étienne devant le Sanhédrin soit fait en contradiction avec les lois, avec les règles que la loi juive prévoit pour juger quelqu'un qui doit passer devant un tribunal. Comme ce fut d'ailleurs le cas du procès du Seigneur, qui fut vraiment un procès inique. Alors, Étienne va prononcer un long discours que nous voyons au chapitre 7, un très long discours qui est, comment dire, qui résume les bienfaits de Dieu en faveur d'Israël, qui part d'Abraham jusqu'à la venue du juste, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Mais vous voyez, ce type de discours, le discours d'Étienne, on en retrouvera la trame par la suite, mais il y a aussi une parenté entre le discours qu'Étienne fit devant le Sanhédrin et le discours que prononça Pierre après avoir reçu l'Esprit-Saint avec les autres apôtres au jour de la Pentecôte. Il y a une trame qui est identique, donc on fait appel à toute l'histoire du peuple hébreu, on résume les bienfaits de Dieu en faveur d'Israël, l'amour dont il a témoigné envers son peuple, et on part d'Abraham jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Étienne, d'ailleurs, c'est intéressant dans sa harangue, peut-on dire, eh bien, il dit très précisément que la foi ne dépend pas de la Terre Sainte, qu'elle ne dépend pas de la loi donnée à Moïse, et qu'elle ne dépend pas non plus du Temple. Autrement dit, la foi ne dépend pas de ces trois piliers qui étaient considérés avec une grande importance parmi les chefs des Juifs. Pourquoi ? Parce que, dit-il, les faveurs que Dieu donne à Abraham et à Joseph lui sont données en terre étrangère avant le don de la loi et avant la construction du temple. Ça sera repris également par l'apôtre Paul en Romains 4, 1, 25, cette affaire-là. Moïse lui-même, qui est la personnalité la plus considérable de l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, du point de vue des Juifs, eh bien, il est né en terre étrangère, il est instruit en Égypte. Et lorsqu'il a son entretien avec Dieu sur la montagne du Sinaï, ce n'est pas non plus dans la terre promise. Voilà. Je ne m'étends pas trop sur ce discours parce que vous pouvez le lire très attentivement. Vous verrez que il est très important, ce discours d'Étienne. Il est très beau, très important, et il est extrêmement vigoureux. Étienne va se distinguer par sa vigueur devant les chefs des Juifs qui veulent le juger. Et Étienne dit aussi que les détracteurs de la loi, ce sont les Israélites eux-mêmes, eux qui désobéirent à Moïse, c'est en 7:35-43. Il nie avoir blasphémé contre Dieu, puisque vraiment dans son discours, il rappelle que tout l'amour que Dieu a témoigné à son peuple en le comblant de tous les bienfaits passés. Il dit également, ça c'est dans la section 7:44-50, que le temple n'a qu'une valeur relative, parce que le culte de Dieu est bien antérieur, de longs siècles antérieur à la construction du temple. Nous le savons, l'attente du témoignage qui pérégrinait au désert avec les Hébreux, pour ne parler que de cet aspect. Et que de plus, eh bien, celui qu'aucun lieu ne peut contenir n'habite pas dans une demeure faite de main d'homme. Alors, on retrouve vraiment, si on est attentif, on retrouve dans le discours d'Étienne la force des discours des prophètes qui annonçaient la ruine du temple, qui annonçaient la loi nouvelle inscrite dans les cœurs, ça c'est en Jérémie 31. Mais Étienne s'inscrit aussi dans l'enseignement même du Seigneur Jésus-Christ qui parle du temple qui détruisait ce temple et en trois jours je le relèverai. Et il parlait du temple de son corps. Donc le temple qui serait relevé d'entre les morts, le temple non fait de main d'homme et le culte qui désormais deviendrait le culte en esprit et en vérité. Bref, tout ce que le Christ accomplit plus exactement, tout ce qui relève de l'accomplissement de la loi. Puisque la loi n'est pas abrogée, mais elle est accomplie, c'est pas la même chose. Et la fin du discours d'Étienne, eh bien là, elle se distingue par un véritable réquisitoire. Mais c'est dans la lignée des prophètes, c'est dans la lignée des prophètes, c'est dans la lignée de ce que dit le Christ également, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Et là, Étienne dit, « Nucrède, oreille et cœur incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Tels furent vos pères, tels vous êtes. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils point persécuté ? Ils ont tué ceux qui prédisaient la venue du juste, c'est-à-dire de Jésus-Christ, celui-là que maintenant vous venez de trahir et d'assassiner, vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges et ne l'avez pas observée. » Donc la fin du discours, c'est un véritable réquisitoire. Et ce réquisitoire, comme vous pouvez vous en douter, va déclencher l'ire des juges. À ces mots, leur cœur frémissait de rage et ils grinçaient des dents contre Étienne. Alors, évidemment, le discours est suivi de la vision qu'Étienne a du Seigneur Jésus-Christ. Ah, dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et là, la haine des chefs des Juifs va augmenter. Et comme un seul homme, ils se précipitèrent sur lui, nous dit le texte, le poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Alors, je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, Saül, ça veut dire le désiré. Hein. Saül est présent à la lapidation d'Étienne. Et plus loin dans les actes, il dit de lui-même qu'il ravageait l'Église. Il ravageait l'Église. Donc, cette... Ce discours d'Étienne, suivi de son martyre, va entraîner un événement majeur, à savoir la grande persécution, une grande persécution, parce qu'il y en aura plusieurs, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, la dispersion d'un grand nombre de ses fidèles, d'abord et surtout des hellénistes, et cette dispersion va être à la source de grands changements dans l'Église. Désormais, l'Église ne sera plus limitée à Jérusalem, mais va se répandre progressivement dans la Judée, dans la Samarie, dans la Galilée, puis plus tard en Phénicie, à Chypre, en Asie mineure, et nous irons jusqu'à Rome comme ça, au moment où se terminera le récit lucanien des Actes. Il se vérifie avec le martyr d'Étienne que le martyr des chrétiens est semence de chrétiens. L'adage latin, sanguis, le sang des martyrs, sanguis martyrum, semen christianorum, se vérifie, s'illustre dans le texte qui nous occupe, mais il est de tous les temps. Il est de tous les temps. Toutes les fois que le sang des martyrs a été répandu, Dieu a agi, l'Esprit de Dieu a agi et le sang des martyrs a fait de nouveaux chrétiens. Donc, l'évangile va être annoncé aux païens. Ça, c'est ça, l'essence même du grand changement qui va intervenir. Jusqu'à présent, l'Église de Jérusalem est essentiellement composée de judéo-chrétiens, c'est-à-dire de fidèles qui... sont fidèles aux prescriptions mosaïques et qui ajoutent la foi au Christ Seigneur. Ils sont vus comme un groupe parmi les Juifs. On le sait, on avait vu la dernière fois, ils sont fidèles à la prière au temple, la prière du matin et la prière après le sacrifice du soir. Mais déjà, ils ont des caractéristiques distinctives, puisque ils sont fidèles à l'enseignement des apôtres, ils pratiquent la fraction du pain et la prière liturgique en commun, en dehors de leur fréquentation du temple. Mais ils ne sont pas encore sortis de l'ensemble du judaïsme. Et avec le martyre d'Étienne, avec la persécution qui va suivre, va commencer l'expansion de la foi chrétienne, va commencer la naissance de nouvelles églises issues de la prédication kérigmatique des apôtres, et nous allons voir entrer les païens dans l'Église. Les païens qui ne passeront pas par la foi juive, qui ne passeront pas par la circoncision. Et nous allons voir que, d'ailleurs, ça va créer des problèmes à l'intérieur de l'Église de Jérusalem, et ce problème recevra une solution au synode de Jérusalem, dont nous parlerons au chapitre 15. Donc on peut dire que Étienne, dans son discours, manifeste qu'il n'y a plus rien à attendre des chefs des Juifs, et ce discours marque un point de rupture et est à l'origine de la naissance de l'Église des Nations. Bien sûr, les choses vont se faire progressivement, mais c'est important de le souligner. Persécution donc de l'Église, suite au martyr d'Étienne. Dans l'Épître aux Galates, au premier chapitre, verset 13, Paul parle de lui-même, et il parle de la persécution effrénée qu'il menait contre l'Église de Dieu et des ravages qu'il lui causait. Donc j'ai dit que d'abord, c'est les chrétiens hellénistes qui vont être visés en priorité. Deuxièmement, donc, une autre conséquence de cette persécution nous est donnée par le fait que, par exemple, Philippe, Philippe, lequel, je rappelle, il est près de Saint-Luc lors de la captivité de Paul à Césarée, à Césarée, j'allais dire à Rome, mais c'est pas à Rome, c'est à Césarée, Césarée maritime, Césarée de Palestine. Donc de 58 à 60, et Luc se renseigne à la source, puisque il a Philippe auprès de lui à ce moment-là. Donc il y a une expansion chrétienne, Judée-Samarie, à ce moment-là. Philippe annonce la bonne nouvelle en Samarie, opère là aussi des signes qui attirent les foules. Il guérit des possédés, nous dit le texte. Il guérit des paralytiques et il guérit des impotents. Donc, investi de la puissance du Saint-Esprit, il opère des guérisons qui sont autant de signes pour susciter la foi parmi ceux qui en sont les témoins oculaires. L'Esprit Saint agit en lui avec la même puissance qu'il l'avait fait avec Étienne. Il baptise. Le texte des Actes nous dit que Philippe baptise des hommes et des femmes qui s'étaient détournés de Simon le magicien. Alors Simon le magicien, qui lui aussi recevra le baptême, mais qui ne s'est pas vraiment converti dans son cœur. Il a essayé, lui, Simon le magicien, voyant les actes de puissance que les apôtres accomplissaient, il a voulu s'approprier cette puissance qu'il considérait comme magique, hein, et il essayait de la monnayer d'ailleurs. Donc, il y a un détail intéressant à la suite de ça, à la suite de ce qu'on nous dit sur Philippe et l'annonce qu'il donne de la bonne nouvelle en Samarie et le fait qu'il baptise, c'est que Pierre et Jean, là je cite, « apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, eh bien, ils viennent dans les lieux envoyés par les apôtres. » Donc, les apôtres sont attentifs à vérifier, à surveiller tout ce travail missionnaire qui s'opère. Alors, en venant, Pierre et Jean vont prier avec les Samaritains qui ont reçu le baptême et ils vont leur imposer les mains. Et à vrai dire, Philippe ne pouvait pas le faire lui-même. Et donc, ce sont les Pierre et Jean qui vont imposer les mains au nouveau Samaritain baptisé. Eh bien, il y a toutes, donc, on voit des communautés se constituer par le fait même et par les signes que Philippe accomplit comme les autres l'avaient fait avant. Eh bien, ils attirent beaucoup de monde à la foi en Christ. Alors, il y a l'épisode de Simon, le magicien qui veut acquérir des pouvoirs. Simon, Irénée de Lyon en parle également dans le Contre les hérésies. Hein, il nous dit qu'il est le père d'une secte gnostique. Toujours dans le chapitre 8, nous voyons Philippe, donc l'un des sept, le diacre Philippe, baptisé un eunuque éthiopien, à l'initiative de l'Esprit-Saint d'ailleurs, qui parle à Philippe à trois reprises. Hein. Vous pouvez le voir entre au chapitre 8, donc les versets 26 jusqu'à la fin. Et c'est à l'initiative du Saint-Esprit que l'eunuque éthiopien va être baptisé par Philippe. Alors, on peut dire que déjà, on a une indication intéressante parce que géographiquement, l'Éthiopie, bon, nous savons où elle est, hein, donc l'Éthiopie est au sud de l'Égypte et du Soudan, et donc elle est au-delà des limites de l'Empire romain. Donc, c'est déjà une indication sur l'expansion de l'Église. Ce n'est pas encore une expansion nombreuse, mais le fait que l'Éthiopien soit baptisé souligne cette expansion. Et il y a également une autre notation intéressante dans ce récit de Philippe et de l'eunuque éthiopien, c'est la lecture donc du passage de l'Écriture et l'interprétation que l'eunuque éthiopien en demande à Philippe, qui donc lui annonce la bonne nouvelle de Jésus, ce qui entraînera le baptême du dit eunuque éthiopien. Eh bien, il s'agit d'un extrait du chapitre 53 d'Isaïe, où il est précisément question de l'humiliation du serviteur souffrant. Des humiliations du serviteur souffrant. Et la tradition chrétienne, les pères de l'Église, ont vu dans ce fragment d'Isaïe 53 s'agissant des humiliations du serviteur souffrant, l'annonce de la passion vivifiante du Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà ce que je peux dire. Bon, bien sûr, il faut se reporter très soigneusement au texte. Dans le cadre de ce cours, je ne peux pas aller verset par verset. Mais de 7 à 8, donc, nous voyons deux chapitres charnières. Nous voyons poindre un événement considérable qui fait suite au martyr d'Étienne et qui veut que l'Église va se répandre partout dans le monde habité, du moins tel qu'il est connu en ce temps-là, va se répandre dans le monde habité grâce à la mission des apôtres habités par la puissance du Saint-Esprit. À partir du chapitre 9, nous voyons vraiment émerger la figure de Saül, la personne de Saül, qui va devenir centrale dans tout le reste des actes, hein, du chapitre 9 jusqu'à la fin du récit de Saint-Luc, qui est l'auteur des actes. La conversion de saint Paul va être décrite à trois reprises. D'abord dans le chapitre 9, dans le chapitre 22, dans le chapitre 26, quand l'apôtre lui-même va parler de sa propre conversion. La persécution donc va s'étendre. Non seulement elle visait l'église de Jérusalem, entraînant la dispersion des chrétiens hellénistes, au moins dans un premier temps, et elle va se diriger également vers Damas, hein, puisque le récit nous le dit, Saül, qui est un pharisien acharné à persécuter l'Église, qui est un disciple du grand Gamaliel le Sage, eh bien, va être mandaté par le grand prêtre pour visiter les synagogues qui sont à Damas et pour faire des prisonniers parmi ceux des Juifs qui se sont attachés au message évangélique, donc sur le chemin et à Damas même. Et bon, ben, nous connaissons tous l'histoire qui est arrivée. Hein. Saül, sur le chemin de Damas, c'est un récit qui est vraiment poignant, parce que le Seigneur va choisir Paul, Saül, qui va devenir Paul, il va le choisir, et il va s'adresser directement à lui. Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécuter ? Et Saül répond : Qui es-tu, Seigneur ? Demande-t-il. Je suis Jésus, c'est moi qui te persécute. Donc, Saül voit le Seigneur. Ça, c'est important, ça. Parce que vous savez que la qualité d'apôtre, à la qualité d'apôtre s'attache celle de témoin oculaire. Et donc on pourrait dire, ben oui, mais le Saül en question, il n'a pas été témoin oculaire. Bien si, il a vu le Seigneur, et le Seigneur l'a enseigné. Parce que l'apôtre, il est le témoin oculaire, et il a suivi le Christ dans tout le temps de sa vie terrestre, et son enseignement en particulier, bien sûr. Il a été témoin de ses gestes, également de tout ce qu'il a accompli. Et là, Saül va voir le Seigneur et va être enseigné par lui d'une manière mystérieuse, bien sûr, mais ça lui vaudra la qualité d'apôtre, qu'il revendiquera d'ailleurs pour lui-même et qui sera reconnu par le collège apostolique. Donc les compagnons qui accompagnent saint Paul, eh bien, ils entendent la voix, mais ils ne voient personne. Il n'y a que Paul qui voit le Seigneur. Donc, je passe sur la suite, hein, il se relève, il est privé de la vue, et il est conduit chez un fidèle du Christ à Damas, qui s'appelle Ananias. Et donc, il recevra le baptême. Et là, donc, nous voyons non seulement Saül, le persécuteur, qui est retourné complètement. C'est fulgurant, c'est un retournement semblable à ceux de certains des prophètes d'Israël, finalement. C'est une conversion très prophétique. Eh bien, après cet épisode où il est privé de la vue et il va chez Ananias et il est baptisé, et tout de suite, quelques jours, nous dit le texte, il passa quelques jours avec les disciples de Damas et sans attendre, il proclamait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. On voit toujours à la Pentecôte les apôtres qui reçoivent l'Esprit Saint et qui se mettent à prêcher aux foules qui sont assemblées pour la grande fête de Shavuot à Jérusalem ce jour-là. Étienne, pareil, hein, investi de l'Esprit Saint, qui annonce, qui fait des prodiges, qui fait des signes, qui parle sans peur devant le grand Sanhédrin qui veut le mettre à mort. Philippe, qui proclame l'évangile, qui baptise des hommes et des femmes, qui baptise l'eunuque éthiopien. Et Paul, Saül, qui devient Paul, eh bien, après sa conversion, et avoir reçu le baptême, il est investi du Saint-Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu, et il va se mettre à annoncer le kérigme. Jésus-Christ, mort et ressuscité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et tout le monde est bien sûr est stupéfait. N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquaient ce nom? Et n'était-il pas venu tout exprès pour les conduire enchaînés au grand prêtre? Voyez, donc, c'est très, très caractéristique, ça, dans le récit que nous donne Saint-Luc. La conversion est très directement liée à l'apostolat. C'est une vocation divine. C'est très, finalement, semblable, je le disais à l'instant, à celle des grands prêtres, des grands prophètes d'Israël. Et semblable à celle des apôtres également. Mais, Saül va être choisi comme un vase d'élection par le Seigneur, en vue d'une vocation spécifique en direction des nations, des païens, des gentils. C'est lui qui aura cette mission spécifique. Donc, nous avons vu que suite au martyre d'Étienne, il y a une seconde expansion de la foi. La première, c'était la création de l'Église de Jérusalem. Deuxième, après le martyre d'Étienne, deuxième expansion de la foi dans la Judée, dans la Samarie, dans la Galilée. Et avec la conversion de Saül, c'est une troisième phase qui s'ouvre dans l'histoire de cette Église primitive, parce que cette fois-ci, dans cette troisième phase, eh bien, l'Évangile va être annoncé aux gentils, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Rome. Extrémités de la terre, comme je l'ai dit, entendons-nous, hein, telles qu'elles étaient connues en ce temps. Donc vous vous reporterez au chapitre 9 pour voir les différentes phases du chapitre, hein, les versets 1 à 2, donc c'est le mandat du grand prêtre auprès de Saül pour persécuter ceux qui pourraient aller faire prisonnier ceux qui invoquaient le nom, ceux qui sont dans la voie. Dans l'Église primitive, on désigne beaucoup la foi chrétienne par la voie. Du verset 3 au verset 9, c'est le chemin de Damas et la vocation de Saül. Et du verset 10 au verset 17, c'est la mission confiée au nouvel apôtre après la communication du Saint-Esprit. Donc Saül va prêcher à Damas. Pardon, je menace. Bon, c'est bon. Il va prêcher à Damas, comme je l'ai dit. Il se rend à nouveau à Jérusalem, suscitant bien sûr l'étonnement et la méfiance. Et il s'entretient avec les hellénistes, mais là, il va susciter une opposition contre lui, et le texte nous dit au verset 9-30, « Les frères l'ayant appris, le conduisirent à Césarée, et de là, le firent partir vers Tars. » Alors, Tars, c'est la ville natale hein, de Paul, sa famille était établie à Tars, et donc il est sorti de Jérusalem et conduit vers Tars pour échapper à la vindicte. Alors, je reprends le texte. S'ensuit, nous dit le texte des Actes, une brève période de tranquillité pour l'Église. C'est au chapitre 9, verset 31. Cependant, les Églises jouissaient de la paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elles s'édifiaient et vivaient dans la crainte du Seigneur. Elles étaient comblées de la consolation du Saint-Esprit. Bon, on passe rapidement sur cette période, mais c'est intéressant par la notation que nous donne ce verset, c'est-à-dire qu'il y a, à ce moment-là, des églises dans la Judée, dans la Samarie et dans la Galilée. Voilà. C'est une notation intéressante. Suit l'activité pastorale de Pierre en Israël, donc avec la résurrection, Pierre qui ressuscite une femme à Jopé, et qui guérit un paralytique à Lydda. Et qui demeure, nous dit, chez un corroyeur qui s'appelle Simon. Et là aussi, c'est une petite notation intéressante, parce que les corroyeurs étaient, de par leur métier, réputés comme légalement impurs. Et donc, Pierre, pourtant, n'hésite pas à résider chez ce corroyeur. Avec les chapitres 10 et 11, il y a encore une nouvelle étape très importante. C'est Pierre Pierre chez Corneille à Césarée. C'est tout le récit qui va nous conduire donc jusqu'au baptême de Corneille. Et là aussi, c'est très important. Donc, Corneille, un homme du nom de Corneille, centurion de la cohorte appelée l'Italique. Centurion de la cohorte appelée l'Italique. Donc, ça n'est pas une troupe qui dépendait d'Hérode Agrippa. Corneille est un païen, ça, il faut le noter, mais c'est d'origine païenne, mais c'est un craignant Dieu. Donc nous retrouvons cette notion de craignant Dieu, c'est-à-dire que nous avons vu les prosélytes, ce sont des gens qui sont rentrés, qui sont d'origine païenne, qui sont devenus juifs, qui sont rentrés dans la foi de Moïse, dans la religion de Moïse, et qui ont été circoncis. Donc ils appartiennent au peuple d'Israël. Bien que d'origine païenne, ils appartiennent au peuple d'Israël. Les craignants Dieu, je l'avais dit la dernière fois, les craignants Dieu, ce sont des gens qui sont très attirés par la foi mosaïque, et je rappelle qu'en ces temps-là, la foi mosaïque dans l'Empire romain représentait pour les païens un pôle d'attraction considérable. Quand on connaît par exemple l'influence de la grande communauté juive hellénisée d'Alexandrie et même l'attrait que la foi mosaïque exerçait parmi les élites de l'Empire romain. Alors Corneille, le centurion Corneille, eh bien, il fait partie de ces craignants Dieu, c'est-à-dire que il adore le Dieu unique, il est proche des synagogues, il va probablement écouter l'enseignement à la synagogue. Il fait, nous dit le texte des Actes, beaucoup de bien pour le peuple d'Israël. Mais le craignant Dieu n'est pas encore intégré au peuple juif et n'a pas été circoncis. Alors, il y a dans ce chapitre 10, où nous sommes en présence à la fois de Corneille et de Pierre, le récit des deux visions. Alors la vision de Corneille à Césarée, chapitre 10, versets 1 à 8. Bon, ben, reportez-vous à ce récit, hein. Et puis, il y aura la vision faisant suite, donc, à partir du verset 9 jusqu'au verset 33, il y aura la vision et l'entretien de Pierre avec Corneille. Donc, je passe là-dessus. Lisez attentivement ces deux textes. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que la conversion de Corneille, eh bien, elle représente une nouveauté, si on y réfléchit bien. Bon, nous avions déjà au chapitre 6, au verset 5, la nomination de Nicolas, le prosélyte d'Antioche. Bon, Nicolas, il est issu du paganisme, mais en tant que prosélyte, il est rentré dans la foi d'Israël et il a reçu la circoncision. Donc il est passé du paganisme au judaïsme avant de recevoir le baptême chrétien. Et avec Corneille, et c'est en cela que va résider la nouveauté, c'est que le cheminement de Corneille va être différent. Corneille, est un païen qui se convertit directement au christianisme, qui va être baptisé directement sans passer par la circoncision juive, mosaïque. Et là, c'est une nouveauté dans l'Église naissante. Et on remarquera, et c'est dit au chapitre 11, je reprends, chapitre 11, les versets 9 à 17, que c'est Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui va imposer directement ce changement dans les pratiques et les perspectives jusqu'alors. Une seconde fois, la voix reprend depuis le ciel, ce que Dieu a rendu pur, toi, ne va pas le déclarer immonde. Cela a recommencé trois fois, puis le tout a été de nouveau hissé dans le ciel. Et voilà qu'à l'instant même, trois hommes se sont présentés à la maison où nous étions. Ils m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit m'a dit de m'en aller avec eux sans aucun scrupule. Les six frères que voici m'ont accompagné, et nous sommes entrés dans la maison de l'homme en question, donc de Corneille. Et il nous a raconté comment il avait vu. Donc c'est la fin du. De la deuxième section du chapitre 9. Il nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter dans la maison et lui dire « Envoie quelqu'un à Joppé pour faire venir Simon, qu'on surnomme Pierre. Il exposera devant toi les événements qui apporteront le salut à toi et à toute ta maison. » À peine avais-je pris la parole que l'Esprit Saint est tombé sur eux, comme il avait fait sur nous au commencement. Je me suis souvenu alors de cette déclaration du Seigneur. Jean, disait-il, a donné le baptême d'eau, mais vous, vous allez recevoir le baptême dans l'Esprit Saint. Si Dieu a fait à ces gens le même don gracieux qu'à nous autres pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, étais-je quelqu'un, moi, qui pouvait empêcher Dieu d'agir ? Ça, c'est les paroles de Pierre. Après que Pierre ait vu descendant du ciel un objet indéfinissable, une sorte de toile immense, qui par quatre points venait se poser du ciel et qui est arrivé jusqu'à moi. Donc, et on sait que sur cette nappe, il voit les quadrupèdes de la terre, les animaux sauvages, ceux qui rampent et ceux qui volent dans le ciel. Puis j'entends une voix me dire « Allez Pierre, tue et mange ». Je dis alors « Jamais Seigneur, car de ma vie rien d'immonde ou d'impur n'est entré dans ma bouche ». Et c'est là que le récit reprend, que j'ai cité une seconde fois, la voix reprend depuis le ciel. Ce que Dieu a rendu pur, toi ne veux pas le déclarer impur. Et c'est cette vision et le récit qui suit qui va déterminer Pierre à baptiser Corneille sans que Corneille passe par les prescriptions mosaïques et la première d'entre elles, la circoncision. Ce récit, il est très important, donc pour cette raison, parce qu'il va initier la troisième phase du développement de l'Église hors du monde juif, et il est également important parce que il va être pour les païens le pendant de la Pentecôte des apôtres à Jérusalem. On appellera ça d'ailleurs une véritable Pentecôte des païens, la venue de l'Esprit Saint sur les païens. Il y a donc, après le discours, le chapitre 10 se clôt par le discours de Pierre chez Corneille, et l'Esprit Saint donc tombe sur tous ceux qui sont présents. Et les actes nous disent, ce fut de la stupeur parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre, ainsi jusque sur les nations païennes, le don de l'Esprit Saint était maintenant répandu. Et ils entendaient ces gens, en effet, parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Donc c'est la Pentecôte des païens. Pierre reprit alors la parole. Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l'Esprit Saint? Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Et ils lui demandèrent alors de rester encore quelques jours. Donc, nous avons vu là le déroulement d'événements très importants rapportés par saint Luc, la visite de Pierre à Corneille, le discours de l'apôtre, le baptême du centurion et l'explication de Pierre à Jérusalem. Parce qu'évidemment, quand Pierre, quand les frères circoncis de l'église de Jérusalem vont rencontrer Pierre, ayant été informés de ce qui venait de se dérouler, eh bien, ils vont demander des comptes à Pierre. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Les actes nous disent, alors Pierre reprit l'affaire depuis le début, il leur exposa point par point tout ce qui s'était passé avec Corneille et ses gens qui ont été baptisés. Les circoncis, donc, ils ont, nous dit le texte, des discussions avec Pierre. « Tu es entré, disait-il, chez des incirconcis notoires, et tu as mangé avec eux. » Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose qui recevra, bon, la question, disons, de l'entrée des païens dans l'Église, avec les controverses que ça va entraîner avec les chrétiens issus du judaïsme. C'est quelque chose qui aura son point d'aboutissement au chapitre 15 dans Luc avec le synode de Jérusalem. Nous allons y revenir dans quelques instants. Ensuite, nous avons la fondation de l'église d'Antioche. Alors là, aussi, c'est quelque chose de très important. Cette fondation, bien sûr, elle est contemporaine de l'évangélisation de la Samarie, de la Galilée, de Damas, parce que cette fondation de l'église d'Antioche, elle est aussi la conséquence de la grande dispersion qui suivra le martyre d'Étienne. Il ne faut pas oublier aussi Chypre, la Phénicie et l'Asie mineure plus tard. Antioche, c'est très important, la naissance de cette église d'Antioche, parce que Antioche est une très grande ville à l'époque. C'est la troisième ville de l'Empire romain, n'oublions pas. C'est pas une petite cité. Après Rome et Alexandrie, c'est la troisième ville de l'Empire. C'est une ville où il y a beaucoup de juifs de la diaspora qui résident. Et alors, donc, je prends donc le texte. Fondation de l'église d'Antioche. C'est Barnabas qui est à Antioche. Et la première prédication, elle a d'abord lieu en direction des Juifs. Ça, c'est aussi, c'est une caractéristique. La mission là où Paul, Barnabas et d'autres vont aller évangéliser, ils vont prioritairement dans la synagogue, puisque le message s'adresse prioritairement à Israël. Et donc, ils vont à la synagogue. La première prédication du kérigme a toujours lieu à la synagogue. Et c'est toujours le cas, ça c'est vraiment invariable. Il y a là aussi accomplissement de signes qui manifestent la puissance du Saint-Esprit, car, nous dit le texte, le Seigneur leur prêtait main forte, si bien que le nombre fut grand de ceux qui tournèrent vers le Seigneur en devenant croyants. Et donc, il y a des chrétiens là, il y a des chrétiens païens qui entrent dans l'Église, hein. Des gens originaires de Chypre, de Cyrène, et de telle sorte que non seulement l'Évangile est annoncé aux Juifs résidant dans la ville, mais l'Évangile est annoncé aussi aux Grecs, c'est-à-dire aux nations, à ceux qui n'appartiennent pas à Israël. Et là aussi, on retrouve cette surveillance, cette vérification. Les apôtres, ils veulent se rendre compte de ce qui se passe, de l'entrée de tous ces gens dans la nouvelle église d'Antioche, et ils envoient Barnabas à Antioche. Et le texte nous dit, quand il vit sur place la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie et il les pressa tous de rester du fond du cœur attachés au Seigneur. C'était en effet un homme droit, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule nombreuse fut ralliée au Seigneur, et sûrement tellement nombreuse que Barnabas a besoin d'un aide et il va chercher Saül, Paul, à Tarse, et il le ramène à Antioche. Antioche, d'ailleurs, c'est à Antioche, nous savons tous, que les Netzorim ont reçu pour la première fois le nom de chrétiens. Et les deux apôtres vont rester un certain temps à Antioche pour enseigner, édifier et consolider l'église de la ville. Les conversions sont très nombreuses, ça nous le savons. Alors il se passe quelque chose aussi, c'est l'accomplissement d'un geste fraternel vis-à-vis de l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem, ben, elle a beaucoup de pauvres, parce que ce sont des gens, nous le savons, avec le début du récit des Actes, qui ont mis en commun leurs biens et qui vivent dans une certaine forme de pauvreté. Et nous allons avoir une première collecte en faveur de l'église de Jérusalem. Les aumônes des chrétiens d'Antioche vont être portées à Jérusalem. C'est en 11, 27, 30. Ça se fait à la suite de l'annonce d'une famille par un prophète venu de Jérusalem. Je crois d'ailleurs qu'il est nommé. Je reprends le texte. 27. Ah oui, c'est ça. L'un d'eux, appelé Agabus. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, appelé Agabus, fit alors savoir, éclairé par l'esprit, qu'une grande famine allait régner dans le monde entier. Elle eut lieu, en effet, sous le règne de Claude. Claude a régné entre 41 et 54. Donc, nécessité d'aider les chrétiens de l'église de Jérusalem. Et Paul dira dans l'épître aux Romains, « Si les païens ont participé au bien spirituel, ils doivent à leur tour les servir de leur bien temporel. » cette collecte qui sera la première sera emmenée par Paul et Barnabé à Jérusalem, et elle sera remise aux presbytéros, aux anciens de l'église de Jérusalem. Donc ça signifie que les apôtres avaient à ce moment-là quitté la ville, étaient dispersés et proclamaient la bonne nouvelle de l'évangile en différents lieux de la terre, parce que sinon la collecte leur aurait été remise directement. Mais on sait par le récit des Actes que avant de quitter la ville, les apôtres ont imposé les mains à un groupe d'anciens, lequel groupe d'anciens avait à sa tête Jacques, le frère du Seigneur. Cet geste-là, d'ailleurs, sera répété dans toutes les églises qui seront fondées par les apôtres, et en particulier par le saint apôtre Paul. L'apôtre, il annonce, il est le héros du kérygme, et de cette annonce, par la grâce de Dieu, naît une église, et l'apôtre va continuer sa mission. Il n'y vient pas qu'une fois, forcément, dans l'église qu'il a fondée, il va revenir, notamment Paul va revenir plusieurs fois dans certaines églises qu'il a fondées, mais avant de partir, c'est pas le terme qui convient, mais avant de continuer sa mission, l'apôtre impose les mains à des anciens auxquels il confie la charge pastorale. Et là, on a l'origine de l'institution des épiscopes, qui sont les successeurs des apôtres. Épiscope, ça veut dire surveillant. Donc ceux qui ont la garde du troupeau du Christ en un lieu donné, donc qui sont les chefs d'une église locale fondée là, pour ce qui nous concerne, par les apôtres. On a l'origine des ministères, les anciens, l'évêque, les diacres. On voit tout ça se mettre en place progressivement, même si les trois noms ne sont pas encore clairement discernés. Alors, j'en suis. Nous avons vu le baptême des premiers païens. Nous avons vu Pierre se justifier sa conduite auprès des judéo-chrétiens de Jérusalem, la fondation de l'église d'Antioche, Barnabé et Saül qui enseignent et édifient l'église d'Antioche. Et au chapitre 12, il y a donc l'arrestation de Pierre et sa délivrance miraculeuse, et faisant suite la mort du persécuteur, oui, parce qu'il a été arrêté suite à une persécution visant à faire périr des membres de l'Église, la persécution du roi Hérode. Alors c'est Hérode Agrippa Ier qui est le petit-fils d'Hérode le Grand, hein, il ne faut pas confondre. Donc là, ça se passe entre 41 et 44, puisque Hérode Agrippa Ier est mort en 44. On fait périr Jacques, le frère de Jean, et Pierre est arrêté. Il est libéré par l'envoyé de Dieu, l'ange du Seigneur. Il est libéré de sa prison et il va trouver refuge dans une maison où se réunissent un grand nombre de chrétiens, qui est la maison de Marc. La maison de Marc. L'évangéliste Marc, à ce moment-là, la maison de la mère de Marc, plus exactement, puisque l'évangéliste Marc, c'est Jean-Marc, hein, il est nommé ainsi, Jean surnommé Marc, eh bien, il réside à Jérusalem à ce moment-là, lequel Marc se retrouvera avec Luc à Rome pendant la captivité de Paul, et ainsi Luc aura des renseignements de première main sur cette persécution d'Hérode Agrippa Ier et l'arrestation et la délivrance de Pierre. À partir du chapitre 13, les chapitres 13 et 14, c'est la première mission de Saint Paul. Saint Paul accompagné du fidèle Barnabas, Barnabé. Donc, il y aura plusieurs missions de Paul, hein, il y a trois plus le voyage à Rome, donc nous verrons la suite la prochaine fois. Là, c'est la première mission. Donc, nos deux apôtres s'embarquent à Séleucie, qui est le port d'Antioche, et ils cheminent vers Salamine. Salamine, c'est sur la côte orientale de l'île de Chypre. Hein. L'église de Chypre est une des plus anciennes, fondée par les saints apôtres. Donc, ils arrivent à Salamine, on peut dater ça aux environs de 44-45, hein, printemps 44-45. Comme à leur habitude, ils vont prêcher à la synagogue parce qu'il y a une importante diaspora juive dans l'île. Et évidemment, on s'adresse d'abord aux juifs, mais on touche par là même également les craignants Dieu, qui, sans être intégrés formellement au peuple d'Israël, fréquentent les synagogues et suivent l'enseignement des rabbins. Et la prière également de la synagogue. Donc, on s'adresse d'abord aux juifs, on touche les craignants Dieu, et après, on proclame également aux païens. De Salamine, on va vers le... Nos apôtres vont vers, cette fois-ci, l'ouest de l'île de Chypre, à Paphos. Donc c'est vraiment le côté occidental de l'île de Chypre. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Sergius Paulus, qui est le proconsul qui réside à Chypre, et lequel est désireux d'entendre la parole de Dieu, nous dit le livre des Actes. Donc, pour ce faire, il convoque les apôtres. Il y a parmi les conseillers de Sergius Paulus un dénommé Elimas, qui est un magicien, fait tout pour s'opposer aux apôtres et qui, de ce fait, sera par Paul, au nom de Dieu, rendu aveugle un certain temps. Et le récit des Actes nous dit que le proconsul va embrasser la foi. De Chypre, on va vers l'Asie mineure, du moins vers la province de Galatie. Donc là, c'est la Galatie, pour situer, c'est la partie méridionale de l'Asie mineure, ce qui correspond au sud de la Turquie actuelle. Et on va à Antioche de Pisidie. Antioche de Pisidie, bien, c'est une ville importante qui est un carrefour de route qui conduisent d'Éphèse à Tarse, ou de Tarse à Éphèse, selon. Les apôtres, donc, atteignent Antioche de Pisidie, sont passés par Pergé en Pamphylie. Et là, on ne sait pas très bien pourquoi, d'ailleurs le texte reste très lapidaire, Jean Marc donc les quitte pour retourner à Jérusalem. On sait que Paul le dira dans une de ses épîtres, qu'il en a conçu une certaine amertume, mais on ne sait pas le mobile de cette séparation. Alors, il faut bien se dire que nos deux apôtres, ils ont longuement marché, parce que pour atteindre toutes ces contrées, il faut marcher longuement sur des plateaux, sur la montagne, dans la montagne. Enfin bon, c'est les déplacements, bon, se font à pied. Hein. Il arrive à Antioche de Pisidie. Là, c'est caractéristique, c'est-à-dire que dans les synagogues, dans les endroits précédents où il prêche, tout de suite, ça entraîne une division. Hein. Il y a ceux qui entendent le message et il y a ceux qui manifestent quasiment instantanément leur hostilité. Il arrive à Antioche de Pisidie et là, donc il parle selon son usage à la synagogue, le jour du sabbat, il est invité par les chefs de la synagogue à s'exprimer. Il va tenir un discours kérigmatique. Et là, c'est intéressant aussi, parce que le discours de Paul à Antioche de Pisidie, c'est un modèle de discours kérigmatique destiné aux Juifs. Bien sûr, le kérigme est annoncé aux Juifs et aux païens, mais on ne s'adresse pas, les apôtres ne s'adressent pas de la même manière, vous vous en doutez, à des Juifs ou à des païens. Donc, le message du discours est toujours le même. Hein. Il n'y a pas d'opportunisme dans le discours, c'est toujours le même, fondé sur la personne du Christ, sa mort et sa résurrection, qui est le centre du kérigme. Mais il a ses caractéristiques propres en ce qui concerne le public des Juifs auquel il s'adresse. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a une parenté entre le discours de Pierre à la Pentecôte, entre le discours d'Étienne et entre celui que tient Paul à Antioche de Pisidie. Toujours la même chose, rappel des bienfaits de Dieu en faveur de son peuple, car Dieu a aimé son peuple, annonce de la bonne nouvelle de quoi ? De l'accomplissement de la promesse faite à Israël, puisque depuis Moïse, on était dans le temps de la promesse, de l'accomplissement, l'annonce de la résurrection du Seigneur, et là, la notion aussi de justification dans le Christ par la foi. Et donc là, le discours à Antioche de Pisidie, eh bien, il suscite beaucoup d'intérêt. Au point que les apôtres sont invités à nouveau à prêcher au Shabbat suivant. Ce qui n'était pas arrivé dans les prédications antérieures des différentes synagogues déjà rencontrées. Et là, le livre des Actes nous dit « Toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu ». Là, par contre, il va y avoir une réaction des Juifs. C'est dans le chapitre 13, les versets 44-47. « Le sabbat venu, presque toute la ville s'était rassemblée pour écouter la parole du Seigneur. À la vue de cette foule, les Juifs furent pris de fureur et c'était des injures qu'ils opposaient aux paroles de Paul. À la bienveillance du sabbat précédent, là succède pour le moins une forte animosité. Paul et Barnabas eurent alors la hardiesse de déclarer, hein, ils sont investis de la puissance de l'esprit, ils n'ont pas peur d'annoncer, même devant cette foule hostile. C'est à vous d'abord que devait être adressée la parole de Dieu. Puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, alors nous nous tournons vers les païens. Car tel est bien l'ordre que nous tenons du Seigneur. Et on nous dit que, eh bien, la prédication des apôtres suscite une grande joie parmi les païens, et beaucoup embrassent la foi, et nombreuses sont les conversions dans la région. Et ceci va entraîner une persécution de la part des Juifs, et Paul et Barnabé vont quitter la ville en direction d'Iconium. À Iconium, on retrouve la même situation. Iconium est là aussi assez loin et il faut marcher. Et on retrouve la même situation, prédication kérigmatique à la synagogue. Nombre de Juifs et de Grecs embrassent la foi. Les Juifs et les Grecs étant tous deux admis au salut messianique sans autre condition que la foi au Christ ressuscité. Et donc la prédication à Iconium, là comme ailleurs, va susciter la division parmi les Juifs. Il va y avoir accomplissement, là aussi, de signes qui manifestent la puissance de l'Esprit-Saint, parce que, eu égard à la faiblesse humaine, justement, et pour susciter la foi, l'Esprit-Saint fait donner ses signes pour manifester sa puissance et attirer les âmes à Dieu. Il y aura, nous dit le texte, division de la population de la ville. Et là, il se passe un début de lapidation, en fait. Hein, Alors attendez, c'est Iconium. Voilà. Païens et juifs, avec leurs chefs, décidèrent de recourir à la violence et de lapider les apôtres, conscients de la situation. Ceux-ci cherchèrent refuge dans les villes de la Lycaonie, Lystre, Derbé et les alentours. Là aussi, ils annonçaient la bonne nouvelle. Donc, ils échappent, ils vont chercher refuge dans les villes qui sont nommées, Lystre, Derbé. Toujours, ils annoncent l'évangile. En toutes circonstances, ils annoncent l'évangile. Ça, c'est très important. En toutes circonstances, ils annoncent l'évangile. Et à Lystre, c'est intéressant à noter, à Lystre d'ailleurs c'est là que Timothée sera converti, et dans le discours que Paul tient à Lystre, discours kérigmatique, c'est toujours un discours kérigmatique avec en son centre la résurrection du Christ, mais là c'est en direction des païens, et nous le verrons plus tard quand Paul sera à Athènes et à l'Aréopage d'Athènes. On est déjà en présence là, à Lystre, d'un discours destiné aux païens, donc avec des caractéristiques différentes. Paul invite les habitants de Lystre, qui ont été pris pour des dieux, à cause des signes qu'ils accomplissaient. Et les apôtres réagissent, nous sommes que des hommes comme vous. Et donc, dans le discours de Paul, les païens sont invités à quitter leur faux Dieu et à se tourner vers le Dieu véritable, créateur et bienfaiteur pour tous les hommes. Et là, donc, retentative de lapidation, ça va un peu plus loin d'ailleurs que précédemment. Par des juifs venus d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Mais ils vont échapper à la mort et ils partent à Derbé, où ils continuent d'annoncer l'évangile. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Parce qu'ensuite, ils vont faire le chemin en sens inverse et ils vont conforter ceux qui sont acquis pour le Christ. Ils vont conforter donc les toutes jeunes communautés. Il y a une grande caractéristique, évidemment, qui se dégage de tout ça, c'est le zèle missionnaire de Paul. Le zèle missionnaire. Vraiment, Paul est habité par le zèle missionnaire, et c'est sa caractéristique d'un bout à l'autre de sa vie, du moins à partir de sa conversion sur le chemin de Damas jusqu'à Rome. Le chapitre 15, bon, vous voyez, j'avance un peu rapidement, mais j'ai déjà pris beaucoup de temps. Le chapitre 15, c'est quelque chose aussi de très important, parce que c'est toutes ces conversions de païens, sans passer par les prescriptions mosaïques, et la première d'entre elles, la circoncision. Donc, sans l'idée qu'il faut être intégré au peuple juif et que il faut pratiquer les prescriptions mosaïques auxquelles s'ajoute la foi en Jésus-Christ. Donc toutes ces conversions de païens, cette naissance d'églises qu'on a appelées pagano-chrétiennes, puisque elles sont composées de païens majoritairement, ça va entraîner des controverses, puisque on n'exige plus dans ce cas, et nous avons vu pourquoi, la circoncision préalable. Alors oui, évidemment, quand Paul et Barnabé fondent ces communautés, là aussi, ils établissent des anciens à la tête de ces églises, comme ils ont l'habitude de le faire, des anciens, pour diriger ces nouvelles églises acquises au Seigneur. Arrivés à Antioche, ils rendent compte de leur mission et il y a des gens, des judéo-chrétiens qui descendent de Judée et qui controversent avec eux. Si vous ne vous faites pas circoncire selon la règle de Moïse, disait-il, vous ne pouvez pas être sauvés. Un conflit en résultat, nous dit le récit des Actes. Donc, il est évident que ces controverses à Antioche et à Jérusalem nécessitent une clarification des choses. Donc, Paul et Barnabé vont se rendre à Jérusalem et ils vont porter les litiges qui résultent de ces controverses, ils vont les porter devant les apôtres, puisque la controverse, elle se prolonge à Jérusalem. D'ailleurs, elle vient à l'origine de Jérusalem. Les judaïsants s'opposent, estimant que la foi chrétienne doit s'ajouter à l'observance de la loi mosaïque, ils s'opposent à l'entrée des païens. Ils veulent, du moins, ils s'y opposent dans la mesure où, disent-ils, les païens doivent passer d'abord par la circoncision. Et c'est là, donc, le synode de Jérusalem. Les apôtres et les anciens se réunissent. Il y a le discours de Pierre, qui rappelle d'ailleurs que dans la conversion de Corneille, Dieu n'a pas exigé la circoncision. Et si Dieu n'a pas exigé la circoncision, les apôtres n'ont pas à l'exiger aussi. Qui rappelle, dans son discours, l'apôtre Pierre, qu'il est choisi pour que les païens entendent de sa bouche l'Évangile, que Dieu a donné l'Esprit Saint aux païens, comme aux juifs, et qu'il ne fait pas de différence, donc, s'agissant de l'Église, entre ceux qui sont issus du judaïsme et ceux qui sont issus du paganisme. Pourquoi ? Parce qu'il a purifié leur cœur par la foi. Et donc, dit-il, vouloir imposer la circoncision, c'est vouloir tenter Dieu. Il y a ensuite Paul et Barnabé qui rendent compte de leur mission. Il y a le discours de Jacques, donc qui est l'évêque de Jérusalem, lequel Jacques, donc dit que Dieu s'est réservé, c'est dans le texte, hein, que Dieu s'est réservé un peuple à son nom parmi les païens, que cela c'est conforme à la prophétie de l'Ancien Testament, et qu'il n'y a pas à imposer les prescriptions mosaïques aux païens, si ce n'est que de leur demander de s'abstenir de l'idolâtrie, de l'adultère et des viandes étouffées. Alors, la controverse là va être résolue parce que il y a accord unanime, nous dit le chapitre 15 au verset 22 à 35. Et de ce fait, les apôtres établiront une lettre apostolique, rendant compte des décisions du synode de Jérusalem, et Paul, Barnabé, Jude, Barsabas et Silas seront envoyés à Antioche avec cette lettre apostolique, donc qui est censée régler, parce que en fait la controverse continuera et pendant longtemps, en définitive. Mais en tout cas, cette lettre pour le synode de Jérusalem règle la question de l'entrée des païens dans l'Église sans passer par les observances mosaïques. C'est, comme dit la formule, il a plu au Saint-Esprit et à nous, c'est-à-dire que c'est l'Église, le collège apostolique et l'Église, le collège apostolique, les anciens et l'Église assemblée, qui, sous la guidance du Saint-Esprit, prennent, règlent cette controverse et actent l'ouverture de l'Église aux païens, à l'entrée des païens dans l'Église. Donc, là, vraiment, c'est le point d'aboutissement de tout ce qui avait été entrepris précédemment, à savoir le message évangélique proclamé aux nations, eh bien, il va permettre la naissance de nombreuses églises parmi les païens. Désormais, l'Église n'est plus limitée dans les frontières du peuple juif, mais elle va s'étendre sur toute la terre habitée. Alors la prochaine fois, donc, je vous recommande de lire du chapitre 16 jusqu'à la fin des Actes. Donc nous en terminerons avec les Actes des Apôtres et nous verrons les autres voyages missionnaires de l'apôtre Paul jusqu'à Rome. Merci de votre attention.